Chanson d'eau douce, Simon Rico.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série musicale d'été. Toute cette semaine, je vous embarque pour 5 croisières sonores le long des grands fleuves, un voyage au fil de l'eau, à bord d'embarcations diverses, pirogues, jonques, felouques, pinasses ou sternwheelers, à la voile, à la rame ou à la vapeur. Pour ce deuxième épisode, nous partons sur le Mississippi, un périple qui nous mènera du nord au sud des États-Unis, des frimas de la frontière canadienne jusqu'aux chaleurs tropicales du golfe du Mexique, ce fleuve que Blesse Sandrart savait si bien compter.
Mississippi, à cet endroit le fleuve est presque aussi large qu'un lac. Il roule des eaux jaunâtres et boueuses entre deux berges marécageuses, plantes aquatiques que contiennent les agréages des cotonniers. Ça et là apparaissent les villes et les villages tapis au fond des quelques petites baies avec leurs usines, avec leurs hautes cheminées noires, avec leurs longues estacades qui s'avancent, leurs longues estacades sur pilotis qui s'avancent bien avant dans l'eau. Chaleur accablante, on aperçoit beaucoup de crocos. La végétation luxuriante annonce l'approche de la zone tropicale, bambous géants, palmiers, tulipiers, lauriers, cèdres. Le fleuve lui-même a doublé de largeur, et c'est par centaines maintenant que les crocos s'ébattent autour de nous. On entend le claquement sec de leurs mâchoires et l'on distingue très bien leur petit œil féroce. Les passagers s'amusent à leur tirer dessus avec des carabines de précision. Quand un tireur émérite réussit ce tour de force de tuer ou de blesser une bête à mort, ses congénères se précipitent sur elle, la déchirent férocement, avec des petits cris assez semblables au vagissement d'un nouveau-né.
Le Mississippi affiche des statistiques bien plus modestes que l'Amazone. Sans le Missouri, plus long cours d'eau d'Amérique du Nord, il mesure moins de 4000 km de long et son débit n'atteint en moyenne qu'à peine un dixième de celui de l'Amazone quand son delta se jette dans les chaudes eaux des Caraïbes, ce qui s'explique notamment par un régime de précipitations bien moins généreux en zone tempérée que dans les tropiques. Si les eaux du Mississippi cheminent lentement, avec une fâcheuse tendance à s'étaler, c'est aussi parce que sa pente est particulièrement faible. Sa source se situe sur un plateau à moins de 500 mètres d'altitude et son embouchure est même plus éloignée du centre de la Terre que sa source de près de 5 km, une anomalie qui ne défie pourtant pas les lois de la gravité. Mais son bassin versant est immense, couvrant une zone grande comme 6 fois la France, qui va des Rocheuses à l'ouest jusqu'aux Appalaches à l'est, occupant tout le cœur des États-Unis, une zone répartie sur plus de 31 États où vit un quart de la population américaine. Le Mississippi coupe littéralement le pays en deux. C'est un peu la colonne vertébrale de l'oncle Sam, tant sur le plan géographique qu'historique. Pas étonnant que des milliers de chansons lui aient été consacrées, du blues, du jazz, de la funk, du disco, du rock'n'roll et bien sûr de la country. En 1976, Barbara Fairchild sortait Mississippi, chanson qui donne son titre à tout un album et qui raconte la guitare honky-tonk, les nuits d'été et les rêves d'hier le long du fleuve qui roule jusqu'à la mer et coule jusqu'à la nuit des temps.
People don't the sun, and the wind takes it away.
Identifiée dès le début du 19e siècle, la source du Mississippi n'a jamais vraiment fait débat. Elle se situe dans la région des Mille Lacs, sur un plateau bucolique où pousse un riz sauvage qui a nourri bien des générations d'Indiens et dont le milieu naturel encore préservé constitue un véritable paradis pour les castors, les loups, les ours, les élans ou les aigles. Plus précisément, c'est le lac Itasca, 120 fois plus petit que le Léman, qui donne naissance à ce colosse aux eaux boueuses. Son nom, avec ses consonnes redoublées et sa répétition de « i », vient de l'européanisation d'un terme amérindien, peut-être de l'ojibwé Missisipi, le grand fleuve ou père des eaux. L'appellation désuète, Méchacébé, qu'utilisait par exemple Chateaubriand en 1801, quand le fleuve était encore français, en serait aussi dérivé. Les nouveaux arrivants, moins obséquieux que les Indiens vis-à-vis de la nature, lui ont donné de nouveaux surnoms pour tenter d'humaniser celui pour qui ils éprouvaient autant de crainte que d'admiration. Le Mississippi, fleuve de la souffrance de ses riverains, surtout des Noirs, est ainsi devenu Old Devil River, le vieux diable, ou Old Big Strong, le vieux dur. Mais son sobriquet le plus usité reste évidemment Old Man River, le vieil homme, popularisé par le standard extrait de la comédie musicale Showboat, tiré d'un roman d'Edna Ferber qui compte l'existence laborieuse des Noirs américains établis sur les rives du Mississippi. L'élision du dé final à Old prétend reproduire leur parti particulier. En voilà la version très soul des Temptations, sortie sur un sous-label de la Motown en 1967.
Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.
Mississippi, let me go away from the rich man's bounds. Show me that stream called the River of Jordan. That's the old stream that
must know something. Oh, Old Man River, he just keeps rolling along. You and me, you know, sometimes we have to sweat and strain. Our bodies, Lord, our bodies all aching and racked with a whole lot of pain.
Tote that barge,
lift that bale,
get a little drunk,
and you land in jail.
Thank you.
sa source jusqu'à Minneapolis, le Mississippi n'est encore qu'une petite rivière aux eaux claires dont la surface gèle en hiver quand le blizzard maintient les températures négatives durant plusieurs mois et que la neige tombe en abondance. Avant que les colons européens ne se disputent ce territoire, il était peuplé depuis au moins 9000 avant Jésus-Christ par différentes communautés indiennes. Si les premiers visages pâles arpentaient la zone furent certainement des trappeurs canadiens, les Français ont été les premiers à se l'accaparer à la fin du XVIIe siècle. Plusieurs coureurs des bois partirent alors du Québec vers ce pays d'en haut avec l'intention d'ouvrir une route commerciale vers la Chine, d'exploiter ses richesses naturelles et d'évangéliser les populations autochtones. Les Français seront aussi les premiers Européens à explorer cette zone du fleuve grâce aux casse-nouilles indiens, ces embarcations légères qu'ils francisent en canoë. En 1680, le père Louis Hennepin découvrait et nommait les chutes de Saint-Antoine qui séparent aujourd'hui les Twin Cities, les villes jumelles de Saint-Paul et Minneapolis. Une fois passé ce saut, le fleuve était navigable jusqu'à la mer. Un système d'écluses et de barrages, achevé dans les années 40, permet dorénavant de franchir ces rapides et de sécuriser la navigation dans les gorges en aval. C'est sur ces terres du Nord qu'a vu le jour en 1941 un certain Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. Avant de filer vers New York et la gloire, il a passé deux courtes années à Minneapolis. Mais l'un de ses maîtres, Johnny Cash, a lui aussi chanté plusieurs histoires autour du Mississippi, dont ce Big River, qui se passe en partie à Saint-Paul, Minnesota.
Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover of a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream, went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when it called. St. Louis, later on down the river, a freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and went on down along. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, told it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Dump my blues down in the gulf. She loves you, big river, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die.
Situés au confluent entre le Mississippi et le Minnesota, les Twin Cities se sont structurés au moment de la conquête de l'Ouest. C'est d'abord la construction d'un fort qui a fixé une petite colonie avant que celle d'une église du côté de Saint-Paul ne marque le début de son expansion. Après la guerre de sécession, la croissance de la conurbation a brutalement augmenté et sa population actuelle dépasse les 4 millions d'habitants. Les Twin Cities constituent un centre attractif tourné vers le Pacifique, loin de la déprime qui plombe la Rust Belt voisine. C'est surtout la libérale et moderne Minneapolis qui porte ce renouveau, alors que Saint-Paul a tendance à lorgner vers son glorieux passé victorien. Au vrai, loin d'être jumelles, les deux villes sont avant tout complémentaires. Ici, la population est majoritairement blanche, à plus de 60%, et malgré les programmes de lutte contre la ségrégation initiés dès les années 70 dans ce bastion démocrate, le racisme reste prégnant contre les autres communautés dominées socialement et économiquement. L'affaire George Floyd est venue douloureusement rappeler ce phénomène au printemps. La plus grande vedette des Twin Cities était pourtant issue de la petite communauté afro-américaine. Il s'agit bien sûr de Prince, le Kid de Minneapolis, l'inventeur de cette funk synthétique qui fit les beaux jours des 80s et qu'on appelle en son honneur le Minneapolis Sound. Mais écoutons plutôt une autre gloire locale, plus actuelle, le rappeur albinos Brother Ali, connu pour son engagement contre toutes les formes de discrimination. En 2007, il balançait Uncle Sam Goddam, virulente charge contre les méfaits de l'Amérique Wasp.
Come on, let's go. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the shit real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoning for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold continent latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured a workforce that never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you. You question the rain. You get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane, cause I can't figure a single goddamn way to change. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. All must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me, and why do they hate me, who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shameful display. The overseers even got raped along the way. Cause the children can't escape from the pain, and they born with the poisonous hatred in their veins. Try and separate a man from his soul, you only strengthen him and lose your own. But shoot that fucker if he walk near the throne. Remind him that this is my home. Now I'm gone.
Après avoir dépassé les Twin Cities, les eaux du Mississippi vont parcourir près de 1000 km vers le sud avant de rencontrer Saint-Louis, le prochain centre urbain d'importance nationale. Il faudra d'abord traverser des gorges, puis La Crosse, Prairie du Chien ou Dubuque, autant de noms qui témoignent de l'importante trace qu'ont laissée les Français dans la région. Fondée en 1764, au confluent entre le Mississippi, le Missouri et l'Illinois, Saint-Louis tient son nom du roi Louis IX. Surnommée la Gateway to the West, la ville a joué un rôle essentiel dans la conquête de l'Ouest et une immense arche dressée dans les années 60 en témoigne fièrement. De nombreux migrants venus d'Irlande, d'Allemagne, d'Italie ou d'Autriche-Hongrie s'installèrent ici, rejoints ensuite par des Afro-Américains au cours de la Grande Migration. Au début du XXe siècle, porté par l'explosion du transport fluvial à vapeur puis du chemin de fer, Saint-Louis était la quatrième plus grande ville des États-Unis. Une puissante métropole qui accueillit même l'exposition universelle et les Jeux Olympiques de 1904. La Première Guerre mondiale va amorcer son déclin qui s'accélère pendant la Grande Dépression. Plombé par un chômage de masse et les séquelles d'une ségrégation raciale qui peine à se résorber, Saint-Louis est aujourd'hui l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, dont le centre misérable et délabré ressemble à Détroit. C'est dans les ghettos afro-américains de Saint-Louis qu'ont grandi Chuck Berry et toute une ribambelle de musiciens noirs. Comme beaucoup d'entre eux, le père du rock'n'roll a connu la gloire à Chicago grâce au label Chess, mais il est revenu se faire enterrer ici, sur sa terre natale. Avec son piano sautillant, son single « You Can't Catch Me » faisait, en 1956, le pont entre le blues de Saint-Louis et le rock'n'roll.
'Twas a lightning deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't get me, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren, 'twas a state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done passed us by. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you're gone like a cool.
Quand on dépasse Saint-Louis, on entre dans ce que certains présentent comme le Middle Mississippi. À partir de là, plus aucune écluse ne vient ralentir la navigation qui bientôt s'écoulera dans des méandres sans cesse remodelés par les crues. À cause de l'une d'elles, en 1785, la petite ville de Sainte-Geneviève dut par exemple se déplacer de 3 km vers le nord. Située au point de rencontre avec le puissant Ohio, Cairo a elle aussi eu à souffrir des caprices du Mississippi. Mais la bourgade est plus tristement célèbre pour ses tensions raciales et pour ses lynchages, dont celui de William James en 1909 devant une foule de milliers de blancs. Le déclin économique de Cairo va contribuer à un terrible regain de tension dans les années 60. Pendant le combat des Noirs pour les droits civiques, la ville se transforme même en champ de bataille avec la police qui ratonne et qui tue, appuyée par une sauvage milice blanche. De ces émeutes, Cairo ne se relèvera jamais. Les Blancs ont préféré quitter les lieux plutôt que de céder aux Noirs. Meurtri par le racisme, c'est aujourd'hui une ville fantôme où survivent à peine 2000 habitants dans la misère et l'indifférence. En 1929, le guitariste noir Henry Townshend avait dédié à Cairo, la ville de son enfance, l'un de ses meilleurs blues.
Cairo, Cairo is my baby's home. Cairo, Cairo is my baby's home. Going back to Cairo now, won't be long. Women in Cairo, they will treat you kind and sweet. Women in Cairo, they will treat you kind and sweet. Get you around and take you off your feet. Shoot you, knock you, teach you, and cut you too. Shoot you, knock you, teach you, and cut you too. They get through the graveyard, then for you.
1811, le premier navire à vapeur fit retentir sa corne de brume le long du Mississippi, annonçant une révolution pour le transport fluvial américain. C'était le début d'un siècle de domination des Stern Wheelers, ces grands bateaux à roues à aubes, rendus célèbres par les romans de Mark Twain, puis plus tard par les albums de Lucky Luke. Pour passer le temps, on jouait beaucoup à leur bord et les professionnels du poker, chassés des villes un peu trop puritaines, venaient y plumer les riches voyageurs. Autour de 1830, on estime qu'ils étaient 1500 sur ces steamboats et certains, sûrement un peu trop gourmands, se firent même lyncher. Mais c'est surtout la navigation qui était dangereuse sur le Mississippi, avec ses nombreux hauts fonds et sa propension à changer de cours très rapidement, ce qui, faute de cartes précises, rendait parfois périlleux le choix entre ses différents bras. Parmi les sondeurs, chargés de s'assurer de la profondeur du cours, un certain Samuel Clemens qui, bientôt, fera de l'expression Mark Twain, marque-en deux, pour dire qu'il y a deux brasses de fond, son pseudonyme d'écrivain. Il donnera aussi à son personnage le plus célèbre le nom de Sawyer, qui désigne les troncs d'arbres à la dérive. Le dessin animé japonais, tiré des aventures de Tom Sawyer, a enchanté plusieurs générations de téléspectateurs, dont votre serviteur. À partir de Cairo, le Mississippi entre sur son cours inférieur et commence sérieusement à s'enrouler sur lui-même. Alimenté par les puissantes eaux de l'Ohio, dont le débit est tel qu'il repousse celle du Mississippi jusqu'à 90 km en amont et chargé des limons charriés par le Missouri, le vieil homme multiplie les méandres et les bras au milieu de la plaine alluviale. Sa couleur terre lui vaut alors son surnom de Great Muddy, le grand boueux, dont on dit alors qu'il est trop épais pour le boire et trop liquide pour le labourer. C'est sur l'une de ces boucles que s'est établie la commune de New Madrid à la fin du XVIIIe siècle, durant les 28 années où l'Espagne a régné sur la Louisiane française. Cette modeste bourgade aurait sûrement conservé son anonymat sans les violents séismes qui ont affecté sa région peu après 1810 et qui ont modifié le cours du fleuve et créé des lacs aux alentours. À l'origine de ces secousses, une faille profonde provoquée par un amincissement localisé de la croûte terrestre. Ces dernières années, en 2012, de petits séismes de magnitude 4 ont été de nouveau ressentis à New Madrid et ont réveillé la crainte d'un imminent Big One. Le temps d'arriver à Memphis, écoutons Rufus Thomas, infatigable showman de l'écurie Stax, qui a lui aussi fait trembler les murs du Mississippi durant plusieurs décennies. Everybody's talking about funky Broadway, and everybody's talking about funky Philadelphia. But I want to tell you about my hometown, funky Bahia, Mississippi. Come and go, and Vous êtes bien sur France Culture, la série musicale. Toute cette semaine, c'est Chansons d'eau douce, une heure de navigation en rythme le long des grands fleuves. Aujourd'hui, nous voguons sur le Mississippi et voilà déjà Memphis qui approche. Memphis marque la porte d'entrée du Delta, enfin du Delta Blues, cette plaine agricole si fertile qui court jusqu'à Vicksburg, 300 km plus bas, le long des multiples bras du Mississippi. Fondée en 1819, Memphis fut comme d'autres lieux du Grand Boueux, nommé en référence à l'Égypte des pharaons, dont la civilisation le long du Nil venait d'être redécouverte par l'expédition napoléonienne. Durant la guerre de sécession, Memphis occupera une place stratégique et l'Union se fit fort de vite la prendre aux confédérés pour assurer le ravitaillement de ses troupes. Symbole de la ville sudiste et raciste, ce grand port fluvial reste l'un des berceaux de la communauté afro-américaine qui représente environ la moitié de son presque 1,5 million d'habitants. Ancienne capitale de la Cotton Belt, Memphis n'a pas sombré dans la somnolence qui a saisi nombre des villes du Delta après la Première Guerre mondiale. Ce Chicago du Sud reste une agglomération plutôt dynamique, malgré bien sûr une ségrégation toujours marquée. C'est ici, sur la rive droite du Mississippi, qu'est né le rock'n'roll dans les mythiques studios de Sun Records, aujourd'hui classés monuments historiques. Y ont défilé une liste interminable de vedettes noires et blanches, Howlin' Wolf, B.B. King, Muddy Waters, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley ou Johnny Cash. Mais Memphis, c'est aussi la ville du label Stax et de son Memphis Sound, une soul sudiste gorgée de blues et de gospel. En voilà un exemple de 1970 avec Little Sonny, autoproclamé pour l'occasion nouveau roi de l'harmonica. Inspiré par les succès de Sun Records, le jeune Jim Stewart lance Stax en 1958 avec l'aide financière de sa sœur Estelle. 10 ans plus tard, le label enchaîne les succès au sommet des charts US quand son chanteur vedette Otis Redding se tue dans un accident d'avion et que Martin Luther King est assassiné à 2 pas de son studio par un tireur embusqué. Allié au mastodonte new-yorkais Atlantic, Stax rivalise alors avec la Motown et se permet même d'organiser en 1972 un immense festival à Los Angeles, What's Stax, devant plus de 100 000 personnes pour défendre les droits des Afro-Américains. Sur scène, la fine fleur de ces vedettes qui viennent presque toutes du Delta, Isaac Hayes, Albert King, les Barclays ou Little Milton. Mais les ennuis commencent dès l'année suivante. Le label est l'objet d'enquêtes portant sur des anomalies comptables à cause de soupçons sur son financement illégal d'organisations noires dont les Black Panthers. En 1975, Stax dépose le bilan et ses studios sont détruits moins de 15 ans après, au moment où s'apprête à émerger un nouveau style musical à Memphis, le crunk. Sous-genre de hip-hop, le crunk tire son nom d'un terme d'argot sudiste qui renvoie à la notion d'excitation. Ce rap sombre et sale devient l'un des piliers du Dirty South, style qui fleurit de Miami à Houston, avec l'envie de casser le duopole entre les côtes Est et Ouest. Toujours actifs, les 3-6 Mafia en furent les sulfureux pionniers. En 1996, ils sortaient leur classique Funky Town, ironiquement titré en l'honneur de leurs aînés.
Yeah. Like this. We packin' them box 19s with them beams when we on the scene. Doug and got them buggin', blow it clean. Out that triple B with BAC. Niggas hope we third world. Niggas hope what they try after. Should they be fools, but there's no telling though. Queens bound in this bitch. Stay down with the click. Never turn their back to backstab. Thought it's super thick. Too lame, never lame. Always been my fucking thug. Change it, give
slushes. But I'm just evil while tripping with them. I get trouble reach right from the bomb of suppers and begging these bitches. They bother the bleeding and dipping the rain. There's no one who wishes to take on my prophets or do up a web by my nuclear boom. The devil is shit in my brain, make me visualize demons surrounding my room. Cause already devils come to rumble, we feeling that thunder that's touching the dome. Do not disturb my patience when filling myself with the essence of tamarind womb. Make me burn the BUD, stir the dirt up in the freeze. Triple six mafia, mother city. Memphis is put down the lock in AP. Skirker in heaven, the feeling I mystically never get tired of in heaven and smoke out. Satanic style, fuck it down, come now, fuck our hoes down. Bitches get stuck when the bumps jump. My lips get crack over that funk. Palmer's up, got me dead drunk. Now let that devil shit funk. As I awake from the days I was put in from the night before. Don't want to snap by the trance, I only want to smoke some more. Don't only a try and crack the shit.
Entre Memphis et Vicksburg, le Mississippi traverse le Deepest South, le cœur de l'Amérique sudiste, celle des plantations de coton et de canne à sucre, celle de l'enracinement des théories racistes considérant les blancs comme intrinsèquement supérieurs. Les thèses ségrégationnistes ont la vie dure dans ce Mississippi rural où l'amendement abolissant l'esclavage n'a été officiellement ratifié qu'en 2013, un siècle et demi après son adoption par le Sénat américain. Ces terres sudistes du Delta ont longtemps été le fief des Dixiecrates, ces politiciens démocrates très à droite, défenseurs des pauvres blancs qui portaient l'héritage des confédérés avant que les républicains, symbole du libéralisme unioniste durant la sécession, n'entament leur virage conservateur avec Richard Nixon. Sa Southern Strategy a fonctionné à plein en s'appuyant sur les réseaux évangélistes pour capter les voix blanches modérées. Entre 1910 et 1970, 6 millions de Noirs américains ont quitté ce Sud raciste en déliquescence pour aller vendre leurs bras dans les nouvelles usines du Nord. De multiples facteurs ont servi de détonateur à cette grande migration, notamment la terrible crue du Mississippi en 1927, mais aussi l'arrêt, un peu plus tôt, de l'immigration européenne. C'est ainsi que Chicago et la région des Grands Lacs sont devenus une sorte de prolongement du Mississippi. Une influence qui se mesure musicalement avec l'émergence, là-bas, d'une flopée d'artistes originaires du Delta. Parmi ces exilés, le guitariste Olin Wolf. En 1969, il signe cette incroyable version psychédélique de son single blues Evil qui compte la douleur d'être loin de chez soi. Can't sleep at night. Grab your telephone, cause something ain't right. That evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother. You better watch your habit. Well, if you're a long way from home. Can't sleep at night. Grab your telephone, cause something wrong. That's evil. Evil is in your home. I'm telling one of you, brother. You better watch your habit home. In your stall, you know that evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother. You better watch your happy home. Evil. Vicksburg marque la pointe sud du Delta Blues et pour l'anecdote, c'est ici que le Coca-Cola fut pour la première fois mis en bouteille. Mais la ville est surtout restée célèbre pour la terrible bataille navale qui opposa l'Union aux Confédérés durant la guerre de sécession. Parce que la victoire du Nord s'est aussi jouée sur les eaux du Mississippi, d'où les cuirassés à aubes de la flotte de l'Ouest pilonnaient la ville, tenue par les sudistes. Ici, La défaite face aux unionistes n'a jamais vraiment été digérée. Et cette frustration va ouvrir la voie très vite à la naissance du Ku Klux Klan, dont la structuration est l'œuvre d'un ancien gradé et confédéré qui était lui aussi marchand d'esclaves. Pendant plus d'un siècle, le clan va faire régner la terreur parmi les Noirs, mais aussi parmi ses opposants blancs, avant de sombrer en déliquescence une fois acquise la victoire du combat pour les droits civiques. Aujourd'hui, le mouvement suprémaciste est morcelé en une multitude de groupuscules, mais il parvient encore à nuire collectivement, comme l'a prouvé en 2017 la violente manifestation Unite the Right à Charlottesville. Au moment où Stax régnait sur la musique noire du Delta Blues, un nouveau courant émergeait chez les jeunes rednecks du Sud en pleine remise en question des préjugés racistes de leurs parents. Tantôt qualifiés de country rock, rock du terroir ou de blue-eyed soul, de soul aux yeux bleus, difficile de classer ce mouvement qui puise ses racines dans les marais du Mississippi au cœur du Deepest South. Les studios de Muscle Shoals en Alabama deviendront le repère de cette petite scène de Swampers. En voilà l'une des vedettes, la chanteuse Bobby Gentry, avec une ode à son Delta natal. Entre Vicksburg et Baton Rouge se trouve la ville de Natchez, la plus ancienne ville européenne de tout le Mississippi. Fondée là encore par les Français, elle porte le nom d'une puissante tribu indienne avec laquelle ils avaient fraternisé avant de l'écraser dans le sang autour de 1730. C'est aussi dans cette zone que s'était épanouie une riche civilisation amérindienne bien avant l'arrivée des Européens. Grâce à ses immenses plantations, Natchez était au milieu du 19e siècle l'une des villes les plus riches des États-Unis, où l'on trouvait la moitié des millionnaires du tout jeune pays. Les immenses villas qui subsistent sur les hauteurs des bluffs, ces falaises fluviales, témoignent de cette époque où les colons s'enrichissaient à la sueur du front de leurs esclaves. Si la mémoire de cette souffrance nègre s'est évidemment transmise grâce au blues, sans doute convient-il de rappeler ici que ces nouveaux rythmes ont été popularisés grâce aux minstrel shows, ces spectacles ambulants initialement interprétés par des blancs au visage couvert de cirage, caricaturant les noirs présentés comme ignorants, stupides, superstitieux, audacieux, mais joyeux et doué pour la danse et la musique. C'est d'ailleurs l'une des plus célèbres chansons des Minstrel Shows, Jump Jim Crow, qui a donné son nom aux tristement célèbres lois ségrégationnistes. À ses débuts, le jazz subira lui aussi ce traitement déshonorant du blackface, et certains artistes noirs se sentiront même obligés de s'auto-caricaturer pour paraître plus crédibles aux yeux des blancs. Parmi les nombreuses chansons volées par les Minstrel Shows, il y a notamment le standard « Lil Liza Jane », dont voici une version gravée en 1956 à la Nouvelle-Orléans par le pianiste U.S. Smith. Natchez franchi, voilà déjà la Louisiane qui s'approche, l'État qui a conservé le nom que portait l'ensemble de l'immense possession française aux Amériques, occupe la plaine littorale du golfe du Mexique, vers lequel plonge le Delta. Sa première capitale, Biloxi, fut fondée en 1699 à l'est de la Nouvelle-Orléans, sur le littoral actuel de l'État du Mississippi. Mais il a fallu attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que la colonisation européenne s'accélère sur ces basses terres humides, brûlantes l'été et souvent inondées ou ravagées par les cyclones. Ce sont les Acadiens, expulsés de Nouvelle-Écosse, le Canada actuel, par les Britanniques, qui finiront par trouver refuge dans les bayous. La déformation du mot a donné « cadien » puis « cajun », le terme qui désigne désormais la minorité francophone de la Louisiane. Ils seront bientôt rejoints par des colons français ayant fui la grande révolte des esclaves à Saint-Domingue avant que d'autres migrants européens ne s'installent ici tout au long du XIXe siècle. Alors que la Nouvelle-Orléans était de très loin la principale ville de Louisiane, les nouvelles autorités américaines décidèrent néanmoins de faire de Baton Rouge, modeste bourg à l'époque, la capitale administrative et militaire de l'État. Un choix imposé par les députés anglophones protestants pour limiter l'influence des catholiques francophones.
Mes amis, la danse qui vient s'envole. Un jour, j'étais prêt à m'en aller sur la rue Garlin. Et j'ai fait une rencontre avec la plus jolie fille. Ouh, yeah. Ça chatouillait jusque dans mes orteils. Moi, cette jolie fille. Alors, allons voir comment j'ai aimé cette belle fille. Elle a joué cette valse. Chers beaux yeux de l'allusion.
Aujourd'hui, la Louisiane ne compte guère plus que 2% de locuteurs français, une proportion qui ne cesse de chuter malgré les programmes de promotion de la langue entamés dès la fin des années 60. Restent les folklores, cajuns blancs ou zydeco créoles pour perpétuer un tant soit peu le passé français. Moïse Robin, que l'on écoute ici, fut, durant l'entre-deux-guerres, l'une des légendes de cette musique, bercée par le violon ou l'accordéon.
Thank you.
Oh, je m'aperçois que ton amitié pour moi faut que ton allée.
À 35 km du golfe du Mexique, le Mississippi se divise en trois branches principales, cernées par d'anciens bras morts marécageux. Ce sont les bayous, espaces amphibies peuplés d'alligators et couverts de mangroves. Une intense activité pétrolière s'est développée dès le début du XXe siècle au cœur de cet écosystème fragile, et l'extraction est telle que le sol s'affaisse et le delta du Mississippi est l'une des zones les plus à risque au monde face au réchauffement climatique. Et pourtant, la Nouvelle-Orléans conserve son surnom nom de Big Easy, la ville facile, celle de la détente, celle des plaisirs et du swing cuivré, avec ses fanfares qui ambiancent même les enterrements. Fondée en 1718 et nommée en l'honneur du régent Philippe d'Orléans, Big Easy porte les stigmates de toutes les grandes villes qui bordent le Mississippi avec sa ségrégation outrancière. C'est ici, dans ce port métissé, ce prolongement des Caraïbes où ont toujours afflué de nouveaux migrants, qu'est né le jazz avant qu'ils ne prennent la même route que le blues du Delta, la 61, pour se disperser dans toute l'Amérique. Symbole de ce creuset populaire, le carnaval, importé par les Français, reste une institution. La fête culmine lors de Mardi Gras avec les grandes parades des chars et celles des Indiens, ces Afro-Américains qui défilent en costume inspiré des tenues cérémonielles des Natives. Aiko Aiko, la chanson popularisée par les Dixie Cups, raconte justement l'affrontement entre deux de ces tribus afro-indiennes. Mais Sugar Boy Crawford a toujours clamé en vain que son Jocomo, bondissant gumbo sorti quelques années plus tôt, en était la version originale.
Aiko, 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 Hande, Jocomo Filo Handande, Jocomo Pinane. Oh, my spy boy met your spy boy sitting by the bayou. My spy boy, I do your spy boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, Aiko, Aiko, Hande, Jocomo Filo Handande, Jocomo Pinane. Oh, look at my queen all dressed in red, Aiko, Aiko, Hande, I bet you $5 she'll kill you dead, Jocomo Pinane. Talking about hey now, hey now, Aiko, Aiko, Hande, Jocomo Filo Handande, Jocomo Pinane.
C'était Chanson d'eau douce, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par David Jacoboviez. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib. Vous retrouverez toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. On se retrouve demain dans l'ouest de l'Afrique pour un voyage le long du Niger, le fleuve de sang des Mandingues, cette artère du Sahel dont les eaux irriguent la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger et le Nigeria.